La parabole des talents, on la connaît par cœur, j'imagine. Elle commence de manière un peu bizarre, un peu abrupte. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il faut se souvenir des liens entre les trois paraboles que nous entendons, celle de dimanche dernier, les vierges folles et les vierges sages, et puis celle de dimanche prochain, le jugement dernier, le troupeau du Seigneur, venez les bénis de mon Père, allez-vous-en les autres loin de moi. Et dimanche dernier, Jésus commençait en disant « Le royaume des cieux sera comparable à… » Et en fait, c'est ça la suite. Comparable à une parabole, comparable à une deuxième parabole, cet homme qui part en voyage. Et alors, on entend bien certaines paroles sur lesquelles il faut peut-être s'arrêter un peu plus, notamment le fait que si le maître des serviteurs leur confie son bien, il le confie selon une règle, un critère, à chacun selon ses capacités. C'est bien dit. Jésus ne fait pas mystère dans la parabole de la raison pour laquelle il y a d'un côté 5 talents, d'un autre côté 2, et pour le troisième un seul. À chacun selon ses capacités. Et puis, il y a ce mot de talent. C'est étonnant, alors on en fait un jeu de mots avec notre langue française, mais au départ, c'est pas ça, bien sûr. Le talent, c'est une unité de monnaie. Et donc, il s'agit bien d'un bien matériel, d'un bien comptable. 5 pièces, 2 pièces, 1 pièce. Mais bien sûr, dans notre langue, le mot talent résonne aussi d'une manière différente. La capacité, le don reçu, on pourrait dire. Et effectivement, il s'agit d'un don, même dans la parabole, c'est très clair. Même si l'exemple de la parabole donne quelque chose de monétaire, le maître donne, confie. Et c'est ça qui importe, c'est que le maître nous confie, le maître Dieu, nous confie à chacun quelque chose, une part de son bien, nommez-le comme vous voulez, mais ça peut être ce qui nous fait à sa ressemblance. C'est ça le bien de Dieu, non? Et avec mission de le faire fructifier, avec mission de ne pas le garder pour nous. Alors après, on peut tomber dans une compréhension très, très moralisante de la parabole. Au boulot, de 5, il faut parvenir à 10, de 2, il faut parvenir à 1, à 4, pardon. Et de 1, il faudrait parvenir à 2. Alors on dit, oh là là, pauvre vieux serviteur, là. Je me souviens, quand on faisait le caté, de petits dessins pour comprendre l'évangile. Je me souviens très bien de cette parabole illustrée en dessin. Celui qui n'avait reçu qu'un talent, on le voyait sous un arbre avoir enfoui le talent et bien allongé à faire la sieste au pied de l'arbre. Voilà, ça m'a marqué, vous voyez. Et en fait, oui, c'est ça. Il faut faire fructifier, mais faire fructifier comment ? Pas faire fructifier juste pour le plaisir de thésauriser, de faire fructifier intelligemment. Faire fructifier, puisqu'il s'agit des dons de Dieu, faire fructifier nos talents, dans le sens français du terme, pour le bien. Et qu'est-ce que ça veut dire pour le bien ? Ça veut dire finalement dans l'ordre de l'amour du prochain. C'est ça le vrai fruit que nous avons apporté, c'est le fruit de la charité. Et tout ce que Dieu nous a donné, c'est justement pour faire œuvre de charité. Pas la charité un peu bébête, non, la charité au sens du don de soi, du service, de l'attention à l'autre. Rien de ce que Dieu nous a donné ne nous a été donné pour qu'on s'enferme dessus et qu'on en fasse un petit moyen d'orgueil. C'est plus grand que ça. Dieu nous veut pour nous aimer, mais on pourrait dire aussi Dieu nous veut pour que nous aimions nos frères et sœurs. C'est ça notre grande mission. Voilà, et donc dès qu'on se replie un peu sur soi, j'ai peur qu'on soit un petit peu comme le troisième serviteur, celui qui cache. Et si nous sommes capables d'entendre ça, le Seigneur nous a fait des dons, non pas pour nous-mêmes, non pas pour nous replier sur nous-mêmes, mais pour les autres. Alors faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance qu'il nous connaît, il connaît notre cœur. Et surtout, Il nous assiste, il nous aide dans ce don qu'il attend de nous pour les autres. Il faut toujours un peu d'audace hein, pour se mettre au service des autres. Mais on sent bien dans la parabole que les deux serviteurs qui reviennent rendre des comptes, ils ont eu à cœur de faire fructifier ce que leur maître leur avait confié. Ils s'y sont mis, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Finalement, ils ont été dignes de confiance. Et c'est pour ça que la parole qui leur est dite après par le maître, c'est « bon et fidèle serviteur ». Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Ce beaucoup, c'est quoi? C'est pas juste une multiplication financière, comptable. Non, ce beaucoup, c'est le royaume. C'est l'éternité en Dieu. C'est la communion en Dieu. Et celui qui n'avait reçu qu'un talent et qui n'a même pas eu la force de le faire fructifier. Et d'ailleurs, Jésus, dans la parabole, joue un peu sur la chose parce qu'il dit, il fait dire au maître, il ne t'est pas demandé d'aller suer sang et eau pour travailler. Tu l'aurais juste déposé à la banque, dit la parabole. D'autres auraient travaillé pour le faire fructifier. Tu aurais été un peu pour quelque chose, ça aurait été déjà pas mal. Mais ça même, tu ne l'as pas fait. Et donc, le problème, c'est que celui qui n'a reçu qu'un talent, comment il considère le maître et le don qui lui a été fait? Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. J'ai eu peur. Celui qui se met devant Dieu dans cette attitude de peur, qui ne semble discerner chez Dieu qu'une sévérité. Comment peut-il aimer? Comment peut-on aimer sous la contrainte? Et c'est ça son problème. C'est qu'il n'a pas confiance dans le maître. Et derrière ça, finalement, se cachent non pas seulement nos capacités au sens de notre énergie, etc. Derrière ça se cache le regard que nous posons sur Dieu. La reconnaissance que nous avons de Dieu. Ça nous interroge sur la foi, en fait, finalement. Peut-on vivre pleinement la charité? Peut-on vivre pleinement le don de soi si on ne va pas le puiser dans la certitude que Dieu nous aime? Voilà ce qu'est la foi, et voilà comment la foi va nourrir la charité. Et puis, c'est très étonnant, l'Église, dans la première lecture, nous fait entendre un petit passage du livre des Proverbes, même on pourrait dire de manière un peu dommage, un passage tronqué du livre des Proverbes. L'hommage rendu à la femme parfaite. C'est la finale du livre des Proverbes. Alors, il faut donner quelques explications. Le livre des Proverbes, livre de sagesse, on l'attribue, en tout cas dans une bonne partie, à Salomon. Salomon, c'est le roi qui a demandé à Dieu la sagesse pour gouverner son peuple. Qui n'a pas demandé la force, etc., la sagesse. Et donc, dans le livre des Proverbes, il y a quand même toute une réflexion sur ce qu'est la sagesse, comment on l'attend de Dieu, on la demande à Dieu. Et voilà que, au bout de cette réflexion, vient non pas une belle prière pour dire « Seigneur, toi, c'est toi le grand sage et tu nous donnes ta... » Non, non. Voilà une prière en forme d'hommage à la femme, à l'épouse. Une femme parfaite qui la trouvera. Alors je dis que cette lecture est raccourcie parce que c'est beaucoup plus développé. J'invite d'ailleurs tout particulièrement les époux à aller relire cette finale du livre des Proverbes. Mais pourquoi? Il faut dire aussi que Salomon, dans sa recherche de la sagesse, il a un peu dévié à un moment, même plus qu'un peu. Il aimait les femmes dans tous les sens du terme. Et donc, peut-être sait-il de quoi il parle, je ne sais pas. En tout cas, au moins il se rachète dans ses déviances. Il a eu un nombre d'épouses et de concubines incroyables. Il se rachète dans ses déviances par cet éloge. Mais surtout, qu'est-ce qui se cache derrière cet éloge? C'est pas juste Salomon fait l'éloge de la femme qui travaille bien à la maison et qui tient sa maison. Non, c'est beaucoup plus que ça. Là, après, on pourrait critiquer aujourd'hui, dans l'esprit actuel, dire « Ah là là, c'est trop facile ». C'est pas de ça dont il s'agit. Voilà que Salomon, au terme de sa recherche de la sagesse, va louer l'épouse qui tient sa maison. Comme si elle était, je dis comme si elle était, je l'entends, hein, le modèle de la sagesse. Pourquoi ? Parce que la sagesse, c'est pas juste d'avoir bien compris les choses intellectuellement. La sagesse, c'est pas juste de l'ordre de la connaissance. La sagesse, c'est de l'ordre de l'action. On revient à notre parabole des talents. De l'ordre de l'action, ça veut dire quel genre d'action ? Non pas l'action qui brille, non pas l'action qui où on tire de la gloriole, etc. Non, non. L'action sous le regard de Dieu. Et du coup, qu'est-ce qui est plus sous le regard de Dieu ? Qu'est-ce qui est plus humble ? Et en même temps, qu'est-ce qui est plus fidèle que le travail de l'épouse qui tient sa maison et qui fait la joie de son époux ? Frères et sœurs, de temps en temps, on dit la Bible, l'Église, misogyne, etc. Enfin là, quand même, on n'est pas du tout de cet ordre-là. Hein. La perfection de la sagesse, c'est la fidélité quotidienne. La perfection de la sagesse, c'est même, on pourrait être un peu plus précis, la fidélité aimante quotidienne. Celle qui est si discrète qu'on ne la remarque plus, et pourtant, semble nous dire le Seigneur, c'est celle-là qui porte vraiment du fruit. Demandons, frères et sœurs, au Seigneur de nous aider à faire fructifier nos talents de cette manière-là, à la fois de manière discrète, de manière aimante et de manière généreuse. Amen.